Merci beaucoup Victoria Coussa, vous revenez évidemment d'ici une heure pour d'autres informations.
What you got?
Welcome to the beautiful city of Kingston, ladies and gentlemen.
France Inter.
Yeah. RTS, la première.
RFI.
RTBF, la première.
Le réseau des radios d'outre-mer, la première.
That's not crime.
Rastafari.
Very good prix. Bob Marley. Mishka Asayas.
Get up, stand up.
Our music is a part, I was a part, you know.
Et voilà, l'heure est venue, on embarque pour la première étape de notre voyage de l'été qui va vous faire vivre le destin d'un visionnaire dont la voix et la ferveur continuent à nous éclairer et à nous déchirer.
All pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs. All I ever have, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.
On croirait entendre la maquette d'un débutant, mais c'était Bob Marley, seul, à la guitare sèche, dans son studio de Kingston, en Jamaïque, au début de l'année 1980. Il ne lui restait qu'un peu plus d'un an à vivre, et il savait la gravité de la maladie qui allait l'emporter. Cette chanson, Redemption Song, c'était une façon pour lui de dire adieu comme ces acteurs qui, sous les projecteurs, sur scène, nous ont subjugués, faisant rayonner autour d'eux une aura surhumaine, et puis qui, les lumières rallumées et le rideau tombé, nous paraissent soudain tout petits et vulnérables. Bob Marley revenait ainsi, une dernière fois, le pas traînant, la tête courbée, pour se mettre à nu, pour dire qu'il avait accompli sa mission et que c'était à chacun de nous de prendre le relais. Cette chanson, Redemption Song, commence par une allusion fugace aux chaînes de l'esclavage. Et puis Bob Marley y célèbre ensuite la foi que le Tout-Puissant lui a insufflée et il avoue que la seule force qui lui reste, c'est d'encourager les autres, vous, moi, enfin tout un chacun, à poursuivre son chemin vers la rédemption. C'est la voix d'un humain qui sait bien de quel chaos, de quelle souffrance, de quelle errance il lui a fallu s'extraire pour aller vers l'espoir et la lumière. Et qui, par une sorte d'opération magique, en était venu à identifier ses espoirs à ceux de l'humanité tout entière, comme d'autres prophètes, enfin bon, si le mot vous paraît exagéré, d'autres poètes messianiques, hein, persuadés qu'on les avait mis sur terre pour accomplir une mission. Vous pouvez tirer un fil de Victor Hugo à Bob Dylan. Alors loin de moi la tentation de me faire plus prêcheur que je ne suis, mais enfin, même si parmi vous il y a, j'en suis persuadé, de froids matérialistes à la tête bien sur les épaules, vous admettrez que c'est pas facile d'évacuer le vocabulaire spiritualiste quand on se met à parler de Bob Marley.
The Woodstock Music and Art Fair, the three-day Aquarian Exposition at White Lake in Bethel, New York, will give you uncomplicated, unhurried, calm days of peace and music. Heavy traffic is anticipated, so leave early if you wish to arrive on time.
L'été dernier sur France Inter, peut-être que certains se le rappellent, j'ai évoqué le festival de Woodstock en 1969. Eh bien, peut-être que je mettrais tout le monde d'accord en disant que l'aventure de Bob Marley a représenté elle aussi, comme Woodstock, l'espoir irrationnel, le rêve, l'illusion, hein, sans doute, que la musique populaire et certaines de ses voix avaient ce pouvoir mystérieux de nous élever, voilà, de nous faire, pour ainsi dire, jaillir au-dessus de nous-mêmes, d'ouvrir grand les portes de la perception, hein, comme disait Jim Morrison des Doors, citant l'écrivain anglais Aldous Huxley, en tout cas, de détourner un temps notre regard d'un monde trop réel qui nous désespère et de nous donner envie de rejoindre un monde meilleur qui sans doute n'est qu'une illusion mais auquel on ne peut s'empêcher de croire parfois de toute son âme. Alors il y a tout dans l'histoire de Bob Marley. Au-delà de la propagation bien sûr du reggae, hein, un rythme étrangement bancal, né sur une île des Caraïbes, à la Jamaïque, à peine plus grande que la Corse, une Corse qui, si vous voulez, sur une map monde, serait étirée à l'horizontale et située au sud de Cuba et à l'est Hispaniola, hein, la grande île qui unit Haïti et Saint-Domingue. La Jamaïque qui avait été colonisé plus de 4 siècles, hein, un record, d'abord par les Espagnols, puis à partir du milieu du XVIIe siècle par les Britanniques, avant de devenir un petit pays indépendant en 1962. Le décor de l'histoire de Bob Marley, enfin ses débuts, hein, ressemble à un film de Scorsese, dont l'action se déroulerait dans un pays du tiers-monde. Il y a des malfrats, des gangsters, des bandes armées, des bagarres, du trafic de drogue, des règlements de compte, des tueurs à gages, des hommes politiques à la fois idéalistes et corrompus jusqu'à l'os. Il y a aussi la banlieue dure, le ghetto, les dangers de la ville et en contrepoint, le refuge de la campagne, hein, l'âpre dureté des travaux des champs, là où se trouvent aussi les ancêtres, le recueillement, la sagesse. Mais le fond de l'histoire, c'est le destin sans précédent d'un homme sorti de nulle part et qui n'avait sa place nulle part. Un métis, un bâtard, trop noir pour la bonne société colonialiste blanche et en même temps trop blanc pour les noirs qui l'ont rejeté. Un homme qui a connu en lui-même la division et la déchirure et qui entend le message d'une secte prophétique, les Rastas, aspirant à l'avènement d'un monde meilleur et dont le credo a donné un sens à sa vie et dont il est devenu le missionnaire et comme le chef charismatique tout autour du monde. Et cette aventure est lumineuse. L'évangile des Rastas, quoi qu'on en pense, en tout cas tel que l'entendait Bob Marley, même s'il était le chant de la déchirure, était à l'opposé de la haine et de la vengeance, et au contraire, au service de la réconciliation et de la fraternité, ce qui est à méditer par les temps qui courent. bon, allez, retour à la musique. Au risque de vous surprendre, ce n'est pas la voix de Bob Marley que vous allez entendre au cours de cette première émission, mais d'autre que la sienne, celle d'une soul jamaïcaine que nous, le grand public, connaissons mal et qui n'a rien à envier à celle des États-Unis dont elle s'est inspirée, Bob Marley le premier, et qui a vu éclore des voix extraordinaires sans lesquelles Bob Marley et les Wailers n'auraient jamais été ce qu'ils sont et qui permettent de sentir dans quel contexte ce talent a pu se développer et s'épanouir. Allez, prenez par exemple la voix de Marsha Griffiths, une voix splendide, elle est toujours avec nous, surgit à Kingston, à la capitale jamaïcaine, et qui a obtenu son premier tube local en 1968, une chanson qui s'appelait « Feel Like Jumping » alors qu'elle n'avait pas 20 ans.
Up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Oh, me Israelite, sir. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. See.
Joshua Elites, le premier tube mondial à venir de Jamaïque. C'était en 1969, une chanson composée et interprétée par un jeune homme qui travaillait alors comme soudeur et qui s'appelait Desmond Dekker. Soudeur, le premier métier également de Bob Marley. Cette chanson, donc The Israelites, a été numéro 1 en Grande-Bretagne et à l'origine d'un véritable phénomène. Personne alors n'avait jamais entendu prononcer le mot « reggae » en dehors de la Jamaïque, où il venait de faire son apparition. Reggae, un mot de patois local, dérivé de straggae, c'est un terme qui désigne une femme facile ou de mauvaise vie, voilà, vous m'avez compris. Et puis on entendait aussi en filigrane l'adjectif ragged, hein, R-A-G-E-D, qui en anglais veut dire en haillon, dépenaillé. Et puis il y avait aussi un jeu de mots avec le mot anglais ragamuffin, hein, vaurien, bon à rien, un terme qu'on utilisait pour désigner les voyous locaux en Jamaïque. Alors ce 45 tours, cette chanson des Israelites, s'est même vendue à 2 millions d'exemplaires aux États-Unis. Pourtant, Bob Marley, même au fait de sa gloire, n'a jamais eu un tube. Desmond Dekker avait enregistré cette chanson chez Leslie Kang, le propriétaire d'origine chinoise d'une e-shop à Kingston, en Jamaïque, qui faisait à la fois restaurant, marchand de glace et magasin de disques. Leslie Kang, surnommé le Chinois, fut le premier à établir là un studio d'enregistrement où sont passés tous les chanteurs et musiciens de l'île, Bob Marley compris, bien sûr. C'est là qu'il enregistra sa première chanson en 1962. Il avait 17 ans. Alors, The Israelites de Desmond Dekker évoque un pauvre homme qui, je cite, doit se lever tôt le matin et travailler comme un esclave pour gagner son pain. Voilà, beaucoup se reconnaîtront. Mais la mention du sort des Israelites, les Israélites, mérite une explication qui nous ramène, bien sûr, à Bob Marley.
Salam in Africa desta. Peace, love and joy.
Vous le savez, sans doute il existait alors en Jamaïque une secte chrétienne millénariste bien connue, les Rastafariens, née dans les années 1930, dont le message touchait essentiellement les citoyens pauvres de l'île, en tout cas noirs de peau. Ces Rastas avaient très mauvaise réputation auprès des autorités. Ils étaient véganes avant l'heure, hein, parce que c'était prescrit selon eux par la Bible, ils ne buvaient pas d'alcool, ils ne se coupaient pas les cheveux, hein, qu'ils arrangeaient en natte, hein, les fameuses dreadlocks, et fumaient de la marijuana, la non moins fameuse ganja, pour prétendument entrer en communication avec l'univers. Les Rastas jamaïcains étaient convaincus, enfin c'était leur doctrine, que les Blancs avaient falsifié à leur avantage le message de la Bible pour mieux les asservir. Et que, en fait, le peuple élu, eh bien, c'était eux. C'était eux, les véritables Israélites, hein, jadis exilés à cause de leurs péchés depuis longtemps pardonnés. Mais heureusement, Haïlé Sélassié Ier, celui qu'on appelait le roi des rois en Éthiopie, qui était encore vivant en ce temps-là, était arrivé tel que le livre de l'Apocalypse l'avait annoncé. Le lion de la tribu de Juda, voilà, c'était lui, allait châtier les blancs esclavagistes, délivrer son peuple de Babylone et le ramener enfin à la terre promise de Sion, où ça, en Éthiopie, évidemment, où un monde juste et parfait allait régner. Alors évidemment, en attendant, il fallait se dresser et combattre, hein, comme le chanterait Bob Marley, « Get up, stand up, don't give up the fight ». Alors de façon intéressante, au début du XXe siècle, il y avait eu auparavant, dans les régions de la côte Est de l'Afrique du Sud, un mouvement comparable au Rasta, quoique de moindre envergure, qui avait été formé par les disciples d'un prédicateur méthodiste qui s'appelait Enoch Mgijima. Ces disciples se faisaient justement appeler les Israélites, entre guillemets, et ils considéraient, comme les Rastas, que le Nouveau Testament était un faux établi par les Blancs, et ils prophétisaient Armageddon, soit un total anéantissement des Blancs dans un bain de sang. Pour permettre, évidemment, c'est le credo de toutes ces sectes, l'avènement d'un monde juste et parfait où toutes les injustices effacées, on pourrait repartir à zéro. Hélas, ces Israélites se firent massacrer par la police sud-africaine en 1921. Retour à la musique avec un des plus grands chanteurs jamaïcains, Ken Booth, associé à ses débuts très jeune, hein, il avait à peine 20 ans en 1968, à ce qu'on a appelé le rocksteady, un rythme alangui qui avait succédé au ska, saccadé et trépidant, avant de céder à son tour la place au reggae et à ses syncopes. Ken Booth, né 3 ans après Bob Marley, a connu le même quartier que lui, Trenchtown, hein, dans le sud de Kingston, près du port, face à la presqu'île de Port Royal. Et, ça s'entend, Ken Booth a été profondément influencé par le chant soul du sud des États-Unis, les voix de Otis Redding et de Wilson Pickett, c'est évident. Cette chanson, Freedom Street, signée Ken Booth, est de l'année 1968.
La première.
RFI.
RTBF La première.
Le réseau des radios d'outre-mer, La première.
Mishka Assayas, Very Good Trip, Bob Marley.
rivers of Babylon, where he sat down.
Évoquer le reggae jamaïcain, la foi des Rastas et celui qui l'a propagé, Bob Marley, sans écouter cette chanson signée en 1970 par un trio vocal qui s'appelait les Melodians, The Rivers of Babylon, c'est le nom de la chanson. On la connaît évidemment par une adaptation disco qui fait se lever tout le monde dans les salles des fêtes du monde entier, interprétée par le groupe Boney M. Boney M, un groupe formé à Munich par un producteur bavarois avec un chanteur antillais et trois choristes, dont deux venaient de Jamaïque. Alors la version originale qu'on vient d'entendre était donc due aux Melodians, un trio vocal de Lille à l'image des Wailers, les Wailers que Bob Marley avait formé avec son ami d'enfance Bunny Livingston comme un frère pour lui et Peter Tosh, deux remarquables chanteurs que certains pouvaient même juger supérieurs à Bob Marley, on y reviendra bien sûr. Alors pourquoi The Rivers of Babylon, les fleuves de Babylone? Eh bien dans la foi des Rastas, qui s'appuie évidemment sur une lecture littérale de certains passages de la Bible, l'Ancien Testament bien sûr, eh bien les entre guillemets babyloniens sont ceux qui au 6e siècle avant notre ère avaient envahi la ville de Jérusalem et détruit le temple du roi Salomon, dispersant les 12 tribus d'Israël. Alors les historiens parlent plutôt de l'empire chaldéen ou néo-babylonien dont le souverain était alors Nabucodonosor, celui qui aurait fait bâtir les illustres jardins suspendus de Babylone, considérés comme une des 7 merveilles du monde. Bref, les Rastas s'identifiaient, je vous l'ai dit tout à l'heure, à ces Israélites exilés sur une terre étrangère, rêvant au retour sur leur terre natale d'où ils avaient été chassés. Et Babylone, dans le vocabulaire des Rastas, désignait vaguement la police, le système qui les oppressait, enfin tout ce qui était l'oppression. Il faut dire que les Rastas étaient très mal vus par les tenants de la loi et de l'ordre en Jamaïque. La police les arrêtait pour détention de cannabis, de ganja, c'est arrivé plus d'une fois aux membres des Wailers. D'ailleurs, Bunny Livingston a même passé pour cette raison 1 an et demi de sa vie en prison. Alors, The Rivers of Babylon, une chanson qui s'est fait connaître grâce à un film qui a eu un immense succès en Jamaïque, puis en Angleterre. Un film qui a joué un rôle déterminant dans la diffusion du reggae et sa transformation en langage musical universel. Ce film, sorti en 1972, s'appelait The Harder They Come. En français, on l'avait traduit par « Tout, tout de suite ». Un film tourné en Jamaïque qui racontait l'histoire d'un apprenti chanteur qui se prénommait Ivan, comme Yvan. Cet Ivan avait des embrouilles avec un producteur véreux. Il devait vendre de la ganja pour s'en sortir. Il avait la police à ses trousses. Et puis, au cours d'une fusillade, il tuait malencontreusement un motard et devenait un hors-la-loi qui fascinait la jeunesse. C'est le chanteur Jimmy Cliff qui jouait le rôle de Ivan. Jimmy Cliff, un chanteur qui avait 3 ans de moins que Bob Marley et qui est le premier à avoir suscité un engouement international pour le rythme du reggae. Il faut rappeler que personne ou presque ne connaissait alors Bob Marley et les Wailers en Europe. En revanche, le premier album de Jimmy Cliff qui contenait le splendide Many Rivers to Cross, repris par Joe Cocker et quelques autres, a été diffusé aux États-Unis comme en Grande-Bretagne et il a passionné les musiciens de folk et de rock américain. Prenez par exemple le New-Yorkais Paul Simon, à la moitié de Simon & Garfunkel. Il s'est envolé dès qu'il l'a pu pour Kingston en Jamaïque et dans le studio même où Jimmy Cliff avait enregistré, accompagné par les musiciens de ce dernier, eh bien Paul Simon a gravé en 1971 le premier reggae américain qui s'appelait Mother and Child Reunion. Mais tout de suite, on écoute Jimmy Cliff, Wonderful World, Beautiful People, la chanson par laquelle tout a commencé.
The world.
Tout le monde ne le sait pas, mais une des plus grandes voix de l'histoire de la musique soul mondiale venait de Jamaïque, celle de Frederick Hibbert, dit Toots, dont le trio vocal, les Maytals, était considéré au milieu des années 60 comme le meilleur de la Jamaïque, devant, avant les Wailers de Bob Marley. Pressure Drop, c'est la chanson qu'on vient d'entendre, une des plus connues, a été enregistrée à la fin des années 60. Le chanteur anglais, qui hélas n'est plus parmi nous, Robert Palmer, l'a reprise quelques années plus tard, et puis aussi le groupe The Clash. La pression du baromètre va chuter, préparez-vous à une tempête, c'est assez menaçant quand on y songe. Alors pourquoi y avait-il tous ces trios vocaux en Jamaïque, dont le plus prestigieux, rassurez-vous, on aura largement le temps d'y revenir, étaient les Wailers avec Bob Marley, Bunny Livingston et Pete Tosh. Eh bien, au fond, c'est assez simple à comprendre, c'est un peu comme le rap. Quand on n'a pas un sou, quand on n'a pas d'instrument ou presque rien, pas d'ampli, on n'a que sa bouche, on n'a que sa voix, à l'image des groupes américains de doo-wop des années 50 qui commençaient par chanter dans la rue, se regroupant autour d'un réverbère. Alors il y a un autre trio vocal de premier plan en Jamaïque dans les années 60, c'est-à-dire un peu avant le reggae, qui s'appelait les Heptones et qui était animé par un chanteur doté d'une des plus belles voix soul de l'île. Il s'appelait Leroy Sibbles et puis lui aussi avait grandi à Trenchtown, ce fameux quartier de Kingston qui fut comme le vivier musical de l'île. J'aurai bien sûr l'occasion de vous en reparler. Leroy Sibbles, au début des années 70, a émigré à Toronto, au Canada, là où réside une importante communauté jamaïcaine. On l'écoute avec les Heptones dans Love Won't Come Easy.
réseau des radios d'outre-mer, la première. RTS, la première.
RFI.
RTBF, la première.
Very Good Trip, Bob Marley. Yeah.
De Horace Andy qui chantait Skylarking, un mot qui en anglais désigne le chahut. C'était en 1962. Alors cette Horace Andy avait une voix de tête très particulière, hein, presque féminine, au vibrato parfois comme tragique. Il avait débuté très jeune, encore adolescent, c'était le cas de beaucoup de chanteurs en Jamaïque, au milieu des années 60. Il avait commencé en chantant le gospel à la chorale de son église locale, le parcours logique des chanteurs soul. Horace s'appelait de son nom d'origine Hines, hein, tout comme un cousin à lui, Justin, qui avait déjà une petite notoriété sur l'île. C'est d'ailleurs ce qui a poussé son producteur artistique, le légendaire Coxon Dodd, hein, celui qui a découvert et lancé la plupart des chanteurs jamaïcains, à le rebaptiser Horace Andy. Et d'ailleurs, un autre public international a découvert plus tardivement Horace Andy. C'était lors des concerts de Massive Attack. Vous savez, ce groupe de Bristol, hein, dans le sud-ouest de l'Angleterre, qui a contribué à fonder le courant musical du trip-hop au début des années 90. Alors, on parle de Bob Marley and the Wailers. Hein, c'est le nom qui est resté dans l'histoire. Mais c'est faire une grande injustice aux deux autres Wailers d'origine, Bunny Livingston et Peter Tosh, chanteurs l'un et l'autre, et quel chanteur. Ces trois-là s'étaient choisis un curieux nom, les Wailers. Il n'y a pas d'équivalent exact au verbe to wail en français. C'est à la fois émettre une longue plainte douloureuse, mais puissante. On dit des bébés ou des chats qu'ils wail. Voilà, c'est pas le vagissement, c'est pas le gémissement, c'est pas le hurlement plaintif pour dire qu'on existe, c'est un peu de tout ça à la fois. Et d'ailleurs, j'en reviendrai sur les implications profondes de ce terme de Wailer qui mérite d'être approfondi. Bref, ce trio-là, les Wailers, a été le plus célèbre de Jamaïque. On a pu dire d'eux qu'ils étaient même les Beatles de la Jamaïque. tous les trois habillés pareil, soudés comme les doigts d'une main, faisant les pitres et même les acrobates sur scène, ils avaient chacun leur personnalité. Il y avait Bunny, élevé avec Bob, ils avaient une demi-sœur en commun, puisque la mère de Bob s'était liée en concubinage avec le père de Bunny. Bunny, le sage, les pieds sur terre, mais enfin méfiant et superstitieux, qui a toujours répugné à quitter sa patrie à la Jamaïque. Et puis Peter, intimidant, il mesurait près de 2 mètres, et sur les photos, on le voit, il fait 2 têtes de plus que les autres. Peter Tosh, violent, provocateur, mais charmeur aussi, et pourvu d'un immense talent également, doté d'une voix que beaucoup n'hésitaient pas à considérer comme bien plus convaincante que celle de Bob Marley. Vous pourrez en juger en écoutant cette chanson « Love », donc interprétée par Peter Tosh avec les Wailers en 66, aujourd'hui dans une série spéciale d'été consacrée à Bob Marley.
Love. Every little thing I do with love, and every little thing I say with love, let every little thing I do with love, and every little thing I say with love,
La Première.
RFI.
RTBF La Première.
Le réseau des radios d'outre-mer La Première.
Very Good Trip.
Oh yeah.
Bob Marley.
Love, very special love.
thou hast guided me whole, thou wilt guide me late. With a joyful sound I'll extol thy name, and I'll just get down on my knees, and I'd say a little prayer, begging you please grant me my one desire. Let us to live in unity, let it be a blessed harmony, so that we'll do the right, never, never, never fuss nor fight, just give us love, ooh, such a precious love.
C'est avec la voix non pas de Bob Marley mais de son compère au sein des Wailers, Bunny Wailer, qui chantait Searching for Love, que nous nous quittons pour aujourd'hui, mais Very Good Trip, Bob Marley, bah ça continue évidemment la semaine prochaine. Tout de suite après les informations, c'est Je reviens du monde d'avant, une émission de Guy Vanctil.